Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver encore aujourd'hui dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Merci de nous écouter partout. Vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières, sur www.radiookapi.net. Comment protéger les droits fonciers des peuples autochtones? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Patrick Kipalou. Il est le directeur de programme Afrique au sein de l'ONG Initiative des droits et ressources, RRI. Monsieur Patrick Kipalou, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama, et merci de nous avoir sur votre plateau.
Bienvenue dans cette émission. Il n'est pas seul. Nous avons également sur ce plateau monsieur Alain Parfait Ngulungu. Il est le point focal de l'organisation dénommée Tenure Facility, qui est basée à Stockholm, en Suède. Monsieur Alain Parfait, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama, et bonjour à tous vos auditeurs.
Bienvenue dans Capi Service. Mesdames et messieurs, vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelée au 0 81 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la paix, comment consolider la paix à travers le commerce transfrontalier. Nous recevons monsieur Narcisse Zindoula, chef de projet Mupaka Chambaletou de International Alert. Voilà, le Mupaka Chambaletou veut dire la frontière notre gagne-pain. Voilà, on en parle à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Marcel Ngomombalakeba sur la coordination. Tati Mapuku à la réalisation. Willem Lungamba à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, votre magazine de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler des droits fonciers des peuples autochtones. Eh bien, les droits des communautés locales et peuples autochtones sur les terres traditionnelles ne sont pas toujours respectées. Ces communautés sont souvent déplacées de leur milieu de vie ou dépossédées de leurs ressources pour diverses raisons, soit pour des projets de conservation de la nature, exploitation forestière, minière ou pétrolière. Ce qui est souvent à la base des conflits. Et pour les experts, il est important de renforcer le cadre légal du secteur de l'environnement pour une meilleure gouvernance foncière et de la biodiversité. Alors, quelles sont les stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs? Eh bien, nous allons échanger autour de cela avec nos invités. Monsieur Patrick Kipalou est directeur de programme Afrique au sein de l'ONG Initiative des Ressources, Initiative des Droits et Ressources. Monsieur Patrick, encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette émission après plusieurs années. Alors, dites-nous, quand on parle des droits fonciers des peuples autochtones, en fait, de quoi s'agit-il exactement?
Merci beaucoup, monsieur Jody, de nous avoir sur votre plateau encore une fois, et bonjour à tous vos auditeurs, les auditeurs de Radio Okapi. Alors, c'est pour moi un réel plaisir de revenir sur ce plateau après plusieurs années.
Oui.
Lorsque nous parlons de droits des communautés autochtones et locales, c'est une mission particulière que la Coalition Initiative de Droits et Ressources, RRI, s'est confiée pour pouvoir assister ces communautés dans la lutte qu'elles minent pour l'amélioration de leurs moyens de subsistance, le respect de leurs droits humains, mais aussi la prise en compte de leur contribution dans l'amélioration de la gestion quotidienne du foncier, des ressources forestières et de toutes les ressources naturelles que nous avons. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, par exemple, et aussi à travers le monde entier, par exemple, les recherches ont prouvé les 15 dernières années ici que là où se trouvent encore des forêts tropicales, debout, intactes ou bien en bon état, ce sont dans la majeure partie des cas des territoires où le droit des communautés autochtones et locales sont reconnus et sécurisés. Les zones à forte biodiversité aujourd'hui sont des zones qui appartiennent principalement aux communautés.
C'est là qui sont, c'est qu'on parle des communautés autochtones, qui sont-ils?
Ce sont des communautés qui vivent dans leur milieu naturel.
Qui sont-elles, je voulais dire, ces communautés, oui.
Exactement.
On veut parler des pygmées, comme on les dit souvent, mais il semble que c'est péjoratif et on n'utilise plus cette appellation-là.
Dans notre pays, lorsque nous parlons de communautés autochtones, pygmées, ce sont ces premiers habitants du territoire congolais, plusieurs années dans les passés. C'est vrai, dans notre cas, un Moulouba dans les Kassai dira « Oh, je suis autochtone de chez moi », un Mkongo du Congo central ou de Kwilu dira « Je suis aussi autochtone pour moi ». Mais lorsque nous ajoutons les termes pygmées, c'est pour faire la différence et indiquer exactement de quelle communauté on est en train de parler. C'est pourquoi, même si ces termes-là est considéré péjoratif, nous préférons de pouvoir toujours l'utiliser pour pouvoir faire la différence. Ok, nous pourrons dire peuple autochtone pygmée. Ça nous permet de pouvoir nous adresser spécifiquement à une communauté particulière qui souffre d'une discrimination vraiment particulière qui amène à une situation de marginalisation économique, politique, administrative et même économique dont souffrent ces communautés-là particulières plus que toute autre communauté ici dans notre pays. C'est pourquoi on préfère dire peuple autochtone pygmée. Si vous regardez toutes les communautés qui composent la République démocratique du Congo, il n'y a pas une seule communauté qui est autant marginalisée dans la vie politique, économique et sociale de notre pays que les communautés autochtones pygmées. C'est pourquoi nous militons pour pouvoir les assister à promouvoir leurs droits, à promouvoir leurs connaissances et leurs contributions dans la construction de cette nation. Nous faisons ce travail en tant que coalition, pas seulement en RDC, mais à travers le monde entier. Nous avons RRI à un programme Amérique latine, nous avons un programme Asie et nous avons un programme Afrique qui travaille dans 12 pays dans le continent africain et moi je suis le directeur de programme pour le continent africain. Et notre mission, c'est celle-là, soutenir les communautés autochtones et locales dans la mission de sécurisation de leurs droits coutumiers fonciers.
Oui, et quels sont les droits, avec des exemples précis, qui sont souvent violés?
Les droits fonciers sont des droits humains. Nous devons le considérer en tant que tel. Et notre constitution en République démocratique du Congo, par exemple, garantit les droits humains de toutes les populations congolaises. Mais dans l'application, il y a beaucoup, beaucoup de variations, il y a beaucoup de problèmes. Nous disons, par exemple, aujourd'hui, la loi foncière, la RDC, nous sommes dans une réforme foncière. Nous avons adopté une nouvelle politique foncière l'année passée, vers la fin novembre, je pense. Et là, maintenant, notre gouvernement est en train de pousser avec ses agences et tous les partenaires pour pouvoir finir une nouvelle loi foncière. Nous essayons de travailler avec...
C'est-à-dire que ces communautés sont dépossédées de leurs terres facilement, comme ça, on peut les chasser d'un jour à l'autre.
Ça, c'est un exemple de multiples violations qui se font sur les terres de ces communautés. Je vous donnerai un cas précis, un exemple spécifique. Prenons le cas de la création des aires protégées en République démocratique du Congo. Nous avons le plus vieux parc national en Afrique. Virunga a été créé au Congo en 1925 par les colons. Après la colonisation, nous avons mis en place d'autres aires protégées. Et la majorité de ces aires protégées ont été créées par la délocalisation des communautés autochtones qui vivaient sur ces terres en les envoyant sur des terres qui ne les appartiennent pas. Nous avons aujourd'hui aidé beaucoup de négociations entre, par exemple, les peuples autochtones pygmées et l'Institut congolais pour la conservation de la nature autour de la gestion de Kaouzibiega, dans le sud Kivu, les communautés Batwa qui ont été chassées de leurs terres traditionnelles pour la création de Kaouzibiega jusqu'à aujourd'hui, que toi et moi nous sommes en train de parler ici, ces communautés sont sans terre. Ces communautés vivent comme étrangères dans d'autres terres. Leurs conditions sont beaucoup plus misérables qu'elles étaient avant la création des Kaouzibiega. Ça, ce sont des problèmes sérieux sur lesquels notre gouvernement doit tabler avec tous les partenaires pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et ça, ce sont des injustices historiques qui doivent être corrigées. Et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement dans ce sens pour promouvoir une loi particulière qui va promouvoir les droits de ces communautés. Oui. Corriger les injustices historiques et pouvoir aider à ce que les contributions et les connaissances de ces communautés puissent aider à l'amélioration de la gestion foncière et à la gestion forestière de toutes les ressources dont dispose la RDC.
Bien, on va accueillir M. Alain Parfait Ngulungu. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Josy.
Vous êtes point focal à Tenure Facility. Parlez-nous de votre organisation. Qu'est-ce qu'est Tenure Facility?
De prime abord, je voudrais saluer la présence de notre compatriote qui est un expert reconnu mondialement par rapport à toutes ces questions des droits fonciers, des questions liées aux peuples autochtones. De manière brève, c'est que merci beaucoup Monsieur Patrick pour cette introduction. Maître Patrick est l'un de ceux qui ont aidé notre pays à recevoir ces financements actuellement que nous sommes dans le projet que nous sommes en train d'implémenter, notamment dans six provinces RDC. Nous sommes dans le Kwilu, dans le Kwango, dans le Congo central, dans le Sud-Ubangi et dans les Maïndombé. Notre projet PASDEF, qui est un projet d'appui à la sécurisation des droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones, a pour objectif principal, c'est de sécuriser les territoires et les ressources des communautés locales et des peuples autochtones. Mais aussi, nous poursuivions à travers ces projets les objectifs notamment d'appuyer justement la RDC à pouvoir lutter contre les changements climatiques tout en sécurisant, bien entendu, les territoires des communautés locales et peuples autochtones, mais aussi d'accorder des moyens de subsistance pour promouvoir la sécurité alimentaire, bref, pour assurer des très bonnes conditions socio-économique en faveur des communautés locales et peuples autochtones répartis sur les six provinces de la RDC. Et
donc, Monsieur Alain Parfait, on dit souvent que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc l'État a le droit de faire partie de ces personnes qui d'ailleurs n'ont pas de certificat d'enregistrement, ils n'ont pas de titre.
Non, conformément aux instruments juridiques des droits internationaux des droits de l'homme, il est reconnu aussi à l'État de pouvoir promouvoir les droits humains de ces sujets, notamment dans les cas d'espèces de communautés locales. Donc l'État n'a pas seulement ces droits-là de pouvoir avoir les droits de possession sur le sol et le sous-sol, mais aussi de garantir les droits humains de ces communautés. Et donc par rapport à certains instruments, évidemment vous faites allusion à la loi Bakajika, mais par après notre État s'est engagé à travers les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, pour justement promouvoir les droits humains de ces communautés. D'ailleurs, notre pays, si je ne me trompe pas, est au courant aussi, ou soit, ça il faut le vérifier, la RDC a déjà ratifié la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones de 2007, qui justement appelle l'État particulier, la RDC, à pouvoir respecter les droits des peuples autochtones dans tous les aspects, notamment économiques, politiques et sociales. Donc, il est de bon aloi que notre État, étant membre des Nations Unies, de pouvoir respecter tous ces instruments juridiques relatifs aux droits humains. Je ne crois pas à un seul instant que l'État, étant donné que le sol et le sous-sol lui appartiennent, devrait violer de manière intentionnelle les droits humains de ces sujets.
Bien, on va accueillir quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. On va accueillir d'abord Safari, qui nous appelle depuis Gabarrière. Bonjour Safari.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour également à tous les invités qui sont au plateau là-bas. Je crois que le sujet d'aujourd'hui est très intéressant car ça touche certaines réalités que nous vivons pour le moment. Il est vrai, messieurs les invités, que certains droits des peuples autochtones peuvent être bafoués. Ouais, il y a des tribus qui se disent des autochtones, leurs droits fonciers peuvent être bafoués, mais je pose la question de savoir, lorsque leurs droits sont bafoués, est-ce que eux, ils auront maintenant le droit ou bien l'autorisation de réclamer leurs droits à faisant par exemple la guerre, à combattant par exemple ceux qui ont bafoué leurs droits? C'est une question que moi je pose parce que je crois que le sujet parle normalement de peuples autochtones pygmées qui n'ont pas plutôt l'habitude de combattre les gens, mais il y a des peuples qui se disent aussi autochtones chez nous, qui réclament que leurs droits, ils disent que non, leurs droits sont bafoués, c'est pourquoi ils combattent les gens. Donc, est-ce que c'est autorisé, cette manière de revendiquer ces droits? Alors, donc, c'est ça une petite question que j'avais pour vous les inviter.
Merci. Merci d'avoir appelé Safari depuis Gabarrière. Monsieur Patrick Kipalo, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci, monsieur, pour votre question. Je veux dire, nous avons tous le droit de pouvoir faire des réclamations, mais en tant que patriotes, avec l'amour de la patrie, nous ne pouvons pas prendre des armes contre notre pays. Il y a beaucoup de moyens, des tunnels à utiliser pour pouvoir réclamer ce droit de manière paisible, et notre loi autorise cela. Je voulais profiter de cette question pour ajouter un détail important. Aujourd'hui, le monde entier est en train de faire face à la crise des changements climatiques et à la perte énorme de la biodiversité. Et la République démocratique du Congo, nous détenons 60% des forêts du bassin du Congo. Et nous avons la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Les efforts ou bien les idées, l'espérance du monde entier est tournée vers la République démocratique du Congo par rapport à cette responsabilité que nous avons pour que nos forêts contribuent effectivement à la lutte contre les changements climatiques, parce que les recherches ont prouvé que lorsque les forêts sont debout, elles contribuent à capter les carbones qui est dans l'atmosphère, et cela baisse la température. Mais regardez, aujourd'hui, les terres des communautés, les terres qui sont gérées par les communautés, ont été étudiées et des recherches prouvent que les forêts qui sont sécurisées, les terres où le droit des communautés sont sécurisées, sont des terres où le taux de déforestation est moindre, où le taux de la biodiversité est élevé, où la capacité de captage de carbone dans l'atmosphère est plus grande, où la sécurisation est meilleure. Alors, vis-à-vis de la responsabilité que le gouvernement, que la RDC a face au monde, il est important pour la RDC de pouvoir reconnaître le droit coutumier foncier de toutes les communautés rurales dans notre pays.
Quand on les chasse de leurs terres, c'est pour faire autre chose. Exploiter le pétrole, le bois ou...
Par exemple, vous savez, prenons l'exemple des communautés autochtones pygmées. Ça, c'est une communauté dont la vie, le style de vie est intrinsèquement lié à sa terre. Lorsque cette communauté est dépossédée de sa terre, elle est dénaturée même dans son identité en tant que communauté. Oui. Parce qu'elle perd sa culture, sa langue, ses lieux sacrés, ses méthodes d'exploitation de ressources, ses connaissances et tout. Toute cette perte-là, ça impacte les pays d'une manière ou d'une autre. Vous savez, aujourd'hui, la communauté internationale a pris l'objectif de pouvoir mettre sous un régime de protection au moins 30% des terres du monde entier d'ici 2030. On appelle ça objectif 2030, c'est-à-dire faire de la conservation, créer beaucoup plus des aires protégées, des réserves naturelles et tout ça. Dites-moi, mon frère, entre nous parlons, est-ce qu'il y a encore des places aujourd'hui pour créer des grands aires protégées en France, par exemple, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis? Lorsque les décisions de ces gens-là sont prises, les yeux du monde entier sont tournés vers l'Afrique. C'est-à-dire, c'est ici qu'ils pensent qu'ils vont obtenir des terres et des forêts pour pouvoir créer d'autres aires protégées, d'autres parcs nationaux. Et si ces aires protégées sont créées de la manière dont les anciennes aires protégées étaient créées, ça veut dire beaucoup plus de conflits, ça veut dire beaucoup plus de misère et de problèmes pour nos populations. Écoutez ceci. Aujourd'hui, il est estimé par les recherches des RRI qu'environ 6 millions de Congolais vivent dans les zones autour des aires protégées. Et d'ici 2030, il y aura au minimum 30 millions de Congolais qui vont vivre autour des aires protégées avec le conflit que nous avons aujourd'hui autour de nos aires protégées. Et si maintenant il y en a 30 millions de Congolais en 2030, vous pouvez vous imaginer la taille des crises, des problèmes. La solution à cela, c'est pouvoir reconnaître le droit des communautés et appuyer la conservation communautaire.
La conservation communautaire. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. Monsieur Alain Parfait.
Oui, je voudrais bondir pour répondre à notre auditeur pour dire que effectivement nous ne pouvons pas faire recours à la violence pour justement revendiquer les droits des peuples autochtones. Mais la loi nous autorise parce qu'il y a des moyens, des dispositions que la loi a mis en place pour revendiquer les droits. C'est donc notre projet en train de faire maintenant en RDC, c'est de pouvoir et c'est ça notre mandat aussi, de pouvoir aider les communautés à sécuriser non pas seulement leur territoire, mais leurs ressources aussi aujourd'hui.
Vous savez, quelles sont ces ressources
Les ressources naturelles, les bois, les minerais. Et parce que vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène d'accaparement des terres qu'on observe partout en Afrique, il y a des entreprises qui viennent avec beaucoup de moyens colossaux.
Les investisseurs.
Contournant tous les dispositifs coutumiers mis en place, c'est-à-dire les chefs coutumiers et tous les notables, pour négocier ces terres-là à un vil prix. Maintenant, notre projet, dans le cadre de la foresterie communautaire, est de mettre en place un dispositif permettant aux communautés qui accueillent les entreprises qui arrivent, à travers un comité bien établi, reconnu, souverain, pour négocier avec ses partenaires. Et que cela ne soit pas ainsi comme on le voyait dans le passé, à travers un sac du ciel, un sachet du sucre,
juste vous pouvez pour les tromper et puis
des milliers d'hectares des territoires des peuples des communautés locales peuples. Donc notre projet a aidé beaucoup de communautés, notamment à Libengué, au Kwango ici, à Bulungu, au Kwilu.
Ah, vous l'avez déjà implémenté.
Oui, déjà nous avons implémenté là où nous avons ce qu'on appelle des concessions forestières de communautés locales, qui est bien gérée et à mesure de recevoir tous les partenaires qui désirent justement investir dans ces communautés.
La foresterie communautaire veut dire quoi? Donc une cogestion, on met en place une sorte de cogestion.
On met en place un mécanisme de gestion par les communautés de leurs espaces forestiers, mais aussi de leurs ressources. Et cela a été édicté par le décret 014 qui a été publié en 2014 en RDC.
Donc on peut dire que c'est ça la solution
face à l'une des solutions pour répondre à tous les problèmes que nous avons, notamment des problèmes d'ordre de lutte contre la pauvreté, mais aussi des problèmes de lutte contre les changements climatiques, tels que l'a si bien mentionné notre compatriote Patrick Kipalu, parce que vous savez, la RDC a été décrétée pays solution depuis la COP 25 qui venait de se dérouler à Glasgow en Angleterre. Et donc la RDC doit se prédisposer, non pas seulement comme un pays demandeur, mais comme un pays aussi qui apporte sa solution à la crise climatique mondiale.
Bien, on va accueillir Justin Kalabia depuis Bounia. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Jody Daniel, bonjour à nos invités qui sont au plateau de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai trois préoccupations, monsieur Jody. Avant que je pose mes préoccupations, j'aimerais juste demander à nos invités, la RDC a déjà gagné quoi aux aires protégées? Parce que nous avons eu plusieurs COP. Il y avait COP depuis COP 1 jusqu'à COP 26 que nous avons. Mais c'est un slogan. Donc c'est une théorie, mais en pratique, rien ne s'est fait, M. Jody. Je ne sais pas si nos invités peuvent nous expliquer qu'est-ce que la RDC gagne à nos aires protégées. Et la première question est celle de savoir, M. Jody, de tout ce que nous conservons, les aires, parce que nous avons des aires protégées ici à République démocratique du Congo. Mais nous, les Congolais, nous ne gagnons rien de tout ce que nous conservons. Et ce que nos invités sont en train d'expliquer quand même pour les seconds, je l'ai bien suivi avec attention, sauf le premier que j'ai eu petit des petits couacs, je ne l'ai pas bien suivi. Et qu'est-ce que les Congolais gagnent dans les aires protégées? La deuxième question, une fois conservées les heures, est-ce que il y aura des perdièmes, il y aura des bénéfices que les provinces vont bénéficier?
Justin, aujourd'hui, on ne parle pas de ces aires protégées, on parle beaucoup plus des droits fonciers des peuples autochtones, les communautés locales qui sont dépossédées de leurs terres traditionnelles.
Ah oui. Donc, bon, je m'excuse parce que je n'avais pas bien suivi les thèmes. Hein. Et oui, Émile, par rapport, nous sommes dans une province de l'Ituri. Oui. Nous avons pas mal de pygmées qui
les
sont
batois.
Ici et qui conservent aussi certaines aires protégées. Maintenant, ces pygmées-là sont délaissés. D'ailleurs, comme nous avons pas mal de groupes armés dans nos milieux, mais ces pygmées, moi, je vois qu'ils sont en train de vivre en misère et ils ne trouvent aucune aide et qui peut les assister.
D'accord, merci beaucoup, Justin, Monsieur Patrick Kipalo.
Merci beaucoup, Justin, pour ta réaction. C'est vrai ce que tu dis. Les communautés autochtones pygmées ont des connaissances et des pratiques traditionnelles qui ont contribué à conserver nos forêts, notre biodiversité jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et l'erreur que nous faisons, c'est de pouvoir négliger ces communautés-là. Ça, ce sont des connaissances, des pratiques, des bibliothèques que nous avons, que nous devons.
Il semble d'ailleurs que beaucoup les considèrent comme des sous-hommes.
Exactement, et malheureusement c'est vrai, je dois dire, parce que moi-même j'ai voyagé à travers toute la République démocratique du Congo et j'ai vécu beaucoup d'expériences qui font très très mal au cœur de la façon dont ces communautés sont traitées là où elles vivent. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler avec un grand groupe de députés nationaux et des sénateurs pour pouvoir faire passer une nouvelle loi qui fait la promotion et la sécurisation de droits des communautés autochtones pygmées en RDC. Cette loi va permettre à corriger des injustices historiques contre cette population et pouvoir promouvoir leur réinsertion dans la société de la bonne manière. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure des pratiques et des connaissances de ces populations, de ces communautés qui peuvent aider à pouvoir améliorer la façon dont nous gérons nos forêts. Nous avons une grande forêt au Congo qui est une très grande bénédiction pour nous en RDC et nous devons garder ces forêts debout. Et ces communautés-là ont des secrets, des pratiques, des connaissances que l'État peut prendre, que nous pouvons partager, que nous pouvons soutenir, que nous pouvons appliquer de diverses manières différentes afin que nos forêts puissent être gérées de la meilleure façon. Mais cela commence par le respect de leurs droits. Cela commence par la reconnaissance de leurs droits humains, commençant par leurs droits fonciers et coutumiers.
Bien, est-ce qu'on doit leur donner les certificats d'enregistrement? Quel mécanisme il faut mettre en place
Pas nécessairement. L'État est libre. L'État peut reconnaître et sécuriser le droit de ces communautés sans même titre. En 2018, par exemple, le Libéria a passé un nouveau code foncier. Nouveau code foncier libérien reconnaît le droit foncier des communautés avec ou sans titre. La sécurisation ne veut pas tout simplement dire titre. Vous savez, pour avoir des titre, l'État ou bien le gouvernement naturellement met des procédures, il faut suivre jusqu'à l'obtention du titre. Et les communautés dont nous parlons sont des communautés pauvres qui vivent parfois les bureaux les plus proche de l'administration foncière et parfois à 400 km, tu vas pas marcher.
Et dont les enfants ne vont presque pas à l'école.
Exactement.
Ils vont pas étudier.
Exactement. Donc nous avons un travail à faire pour voir, selon notre contexte en RDC, comment prendre des mesures qu'il faut, qui respectent les droits de nos populations et qui leur facilitent la vie normale.
Monsieur Alain Parfait, Ngolungu.
Oui, pour répondre à Justin très rapidement, je lui dirai ceci, la RDC a beaucoup à gagner à garder ses forêts intactes. Non pas seulement pour la communauté internationale, mais aussi pour les biens des générations futures. Il ne faut pas oublier que nous sommes engagés déjà, notre pays, sur la voie du développement durable, qui veut tout simplement dire que nous allons exploiter nos ressources aujourd'hui, pour nous bien sûr, mais aussi pour les générations futures qui arrivent, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. Et donc, Je ne vais pas entrer dans les débats sur que bénéficions-nous des aires protégées. Je crois que nous avons bénéficié énormément, tout comme par le passé, même aujourd'hui, par rapport à ce qu'on peut dire comme des co-bénéfices sur l'existence des aires protégées en RDC. Évidemment, là, c'est un autre débat. Il peut se diriger vers l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je crois qu'on va lui donner tous les détails possibles par rapport à cela. D'emblée, ce que j'aimerais dire aussi, dans la même lignée, c'est dire que nous soutenons vraiment que l'Assemblée nationale adopte une loi portant protection et promotion des peuples, droits des peuples autochtones pour justement essayer de pouvoir endiguer toutes les situations difficiles que traversent les communautés pygmées en particulier, mais aussi d'autres communautés, pour leur permettre de bien gérer maintenant les écosystèmes forestiers, mais aussi de pouvoir nous éviter certains conflits comme on l'observe aujourd'hui dans le Tanganyika, pardon, à l'Équateur, en Ituri aussi, où vit notre auditeur Justin. Et donc, la loi peut s'avérer comme un instrument important qui peut réguler certains conflits sociaux que l'on observe autour de la problématique des peuples autochtones.
Mais certains pensent que ces communautés exercent une forte pression sur nos forêts, et ce qui contribue d'ailleurs à la déforestation, d'où il faut peut-être les mettre à l'écart et leur trouver d'autres activités alternatives.
C'est tout le contraire de ce que tu dis. Les peuples autochtones étant des peuples ayant vécu depuis des temps immémoriaux sur ces espaces-là, sur ces forêts-là, sont le seul, je mets vraiment ma main au cœur, qui soit à mesure de bien gérer ces ressources forestières. Et d'ailleurs, cela a été démontré dans le monde entier, parce que lorsque vous les chassez de là, peut-être vous ne le savez pas, savez-vous que ce sont les peuples autochtones qui nourrissent ce qu'on appelle les okapis dans la réserve des poules. Elles sont les seules communautés qui ont ces connaissances-là. Et elles ont beaucoup de savoirs endogènes, même dans la sur le plan sanitaire. J'ai été dernièrement à Libengué, où l'on m'a fait croire, et ça reste à vérifier, m'a donné une posologie qui soit à mesure de soigner les sida et la COVID-19.
Ah, c'est bon, à vérifier. Que ces peuples-là ont découvert.
Ils
ont grâce
ça,
aux feuilles
personne
dans
d'entre
la forêt.
Eux n'a attrapé la COVID-19. Allez vérifier. Pourquoi ne pouvons-nous pas bénéficier de telles connaissances endogènes pour donner des réponses rapides à toutes les épidémies que nous avons aujourd'hui? Là, ce n'est qu'un cas. Donc, pour vous démontrer combien ces communautés sont très importantes pour assurer une gestion durable des écosystèmes forestiers.
Donc, ils ont des connaissances sur les arbres, les racines,
les animaux,
les plantes médicinales, etc.
Ce sont des gens qui peuvent vous attraper un serpent à la main comme ça. Toi, tu peux le faire?
Non, jamais. Je ne peux jamais le faire. Ok, on va accueillir Madame Evelyne de Kananga. Bonjour, Madame Evelyne.
Bonjour, je dis Daniel Cassiamo. Bonjour, notre invité, à tous les auditeurs.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la protection des droits fonciers des peuples autochtones?
Oui, Daniel, vous étiez encore des diffusions, mais à moi, j'essaie un peu de brosser sur un point. Vous savez, le monde est en perpétuelle mutation. Il doit connaître des transformations. On ne va toujours pas dire, parce que Daniel a été le premier occupant ici, on ne peut pas transformer l'environnement. Mais non. Et ils sont là. On peut penser à améliorer leurs conditions. Peut-être que eux-mêmes ne veulent pas de ça, parce que si je me rappelle bien, dès que c'est là-bas, le Monseigneur qui était là autrefois, le nom échappe, avait construit une école pour eux. Il avait construit une école, il y avait des dortoirs, mais ces gens-là ne voulaient, n'acceptaient pas de rester là-bas. S'ils se décident de rester dans une salle de classe une heure, c'est une heure. Et dès qu'ils se décident d'aller dans la forêt, c'est fini. L'enseignant se voit seul dans la salle. Alors, il faut peut-être... avec la proposition d'un auditeur qui est intervenu, construire pour eux quelque part. Construire, néanmoins, leur accorder la gestion de la forêt, tout en étant en dehors de la forêt. Oui, on comprend, hein? Parce qu'il y a des ressources dans cette forêt-là qui doivent être mises en valeur, pour le bien-être de l'environnement congolais. Moi, je crois que attribuer des titres fonciers à tout moment aux gens, c'est pas aussi bien. Si nos chefs coutumiers, les garants de nos valeurs traditionnelles, s'ils arrivent à comprendre, ils doivent arrêter avec cette pratique de vendre des espaces aux gens qui nous viennent de l'outre-mer. C'est pas bien. Parce qu'à un moment donné, les paysans manqueront où pratiquer l'agriculture. Ils manqueront. Et pour le peuple autochtone, moi je crois, on peut toutefois les déplacer, améliorer leurs conditions s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas, hein, il n'y a que le gestionnaire de la nation qui se décidera. Mais à moins le contrôle de la forêt sera entre leurs mains. Mais pour attribuer les titres, moi je suis contre.
D'accord, merci Madame Evelyne.
Personnellement, je suis contre.
D'accord, merci Madame Evelyne de Kananga. Docteur Anissé Kipasa, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour Docteur Anissé.
Bonjour Jody, j'ai bien suivi, oui. J'ai très bien suivi.
Vous êtes à Kikwit, je suppose.
Oui, Jody, je suis bel et bien à Kikwit.
D'accord.
Merci. C'est très intéressant le sujet, mais je voudrais demander à nos intervenants, à l'un et l'autre, s'il y a moyen d'établir un petit équilibre. Je viens en fait, chaque fois que c'est le droit des autochtones, chaque fois que l'État veut récupérer un espace pour l'intérêt public, de faire et de veiller à une certaine compensation pour les autochtones. J'ai entendu leur projet s'étend aussi dans le Kwilu. Je suis vraiment heureux de le savoir. J'ai entendu Kikwit Bulungu. Nous avions aussi des autochtones tout autour ici. Mais je voudrais leur demander, est-ce qu'il existe dans leur projet un volet pour l'encadrement des autochtones pour éviter des abus dans leurs droits? Je vous donne un fait. Il y a 20 ans, nous étions il y a 20 ans, 30 ans, nous étions des enfants. Nous étions des petits, autour de l'aérodrome. La RVA me suit en ce moment. Autour de l'aérodrome de Kikwit, c'était des forêts primaires, des forêts vierges. On trouvait même des singes, des animaux là-bas. Mais aujourd'hui, autour de l'aérodrome de Kikwit, celui qui est venu à Bulungu peut visiter demain. Ce sont les chefs de terre qui gèrent, qui manipulent tous ces espaces-là qui appartiennent aux autochtones. Les chefs de terre. À Kikwit, il y a un drame en gestation. L'aérodrome de Kikwit a été tout autour de l'aérodrome. On a vendu des espaces, on a loti, même à moins de 10 mètres. De 20 mètres de la piste. Vous pouvez vous imaginer, et la RVA le sait, quel sera le problème quand cet aérodrome va devenir encore fonctionnel comme dans le passé. Et on se dira, le gouvernement nous a abandonnés. C'est un risque énorme. C'est parce que les chefs de terre ont usé de leurs droits et ils ont vendu tout autour. C'est très, très dangereux. Et est-ce qu'il y a un mécanisme dans leur projet pour dire aux chefs de terre, aux autochtones, voici vos droits, nous devons veiller pour la compensation. Mais attention aussi aux abus. C'est très, très dangereux. Il n'a qu'à venir, il verra, l'aérodrome de Kikwit est entre un lotissement et c'est très, très dangereux aujourd'hui. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'était une forêt, même pour les pilotes, c'était plus facile d'atterrir et de décoller sans penser à ce qui entoure la piste.
Bien, merci docteur Anissé Kipasa pour cette intervention. On va donner la parole à Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour Platini.
Jordi, bonjour, je salue les deux invités.
On vous écoute Platini.
Voilà, merci beaucoup Jordi de m'avoir associé à ces débats. Moi, je voudrais dire ceci, parce que les problèmes des forêts aussi, comme vous l'avez évoqué, ça pose aussi des sérieux problèmes partout à travers le pays. C'est tout ce que je parle ici parce que je suis à l'Équateur, pas précisément à Mbandaka. Je viens d'effectuer une mission, je pense qu'à Ingéné, là où il y a vraiment des forêts. Mais là-bas, il se pose un problème dans ce qu'on dit les ayants droit. Il y a des ayants droit qui ont récupéré des forêts pour en disant que c'est la forêt, ces forêts-là appartiennent. mais en tenant compte qu'il n'a pas les documents qui prouvent que ce projet lui appartient. Alors moi, je voudrais avoir ce l'éclaircissement autour de ça, tu sais, des ayants droit là, des ayants droit. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de ça? Parce qu'il y a des ayants droit qui ont récupéré bon nombre de forêts, en disant que non, c'est eux qui gèrent ça. C'est appartient à lui. Maintenant, si l'invité peut lui expliquer un peu la réalité là, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de ça? Qu'est-ce que vous des ayants droit?
D'accord.
Voilà, c'est ce que je voudrais. À ce débat.
Merci Platini. Nous parlons aujourd'hui de la protection des droits fonciers des peuples autochtones. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Comment protéger les droits fonciers des peuples autochtones? Monsieur Patrick Kipalou, vous êtes directeur du programme Afrique au sein de l'ONG Initiative des droits et ressources. Vous venez de suivre la réaction de Madame Evelyne de Kananga qui dit que les autochtones sont là, mais on peut améliorer leurs conditions s'ils veulent. Parfois, on peut construire une école et puis après un moment, l'enseignant se retrouve seul. Ils sont plus là, ils sont retournés à la forêt. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cela?
Merci beaucoup, Madame Evelyne, pour votre question. Toutes les communautés, d'abord, nous devons savoir et nous mettre d'accord sur ça, ont droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, les communautés sont libres de pouvoir décider de la façon dont ils veulent conduire leur vie. Ils veulent vivre leur style de vie, leur propre développement, choisir le voie et choisir le moyen. Avec ces droits-là, je pense que nous pouvons consulter les communautés autochtones pygmées en RDC et trouver des voies de développement qui ne dérangent pas trop leur style. Nous pouvons pas quel droit
leur imposer un
voilà,
style de vie.
Nous pouvons pas leur imposer un style de vie. Nous quel droit avons-nous de leur dire vous devez vivre comme nous? Pourquoi ils doivent choisir de vivre comme nous? Nous n'avons pas ce droit-là. Nous pouvons, il y a toujours des moyens de pouvoir le consulter, discuter avec eux pour trouver des arrangements qui leur permettent de se développer tout en gardant leur style de vie, en respectant leur propre culture. Et ça, c'est très, très important.
Bien. Monsieur Alain Parfait.
Oui. Répondant à Madame Evelyne, j'aimerais dire que, vous savez, ces communautés-là ont leur mode de vie. Et ni la loi, ni même le bon sens ne nous autorisent à pouvoir changer leur style de vie, comme l'a dit mon compatriote. Et donc, nous devons, avant toute chose, requérir d'abord leur consentement. Avait-elle accepté à l'époque qu'on leur construise des maisons? Je ne sais pas. Mais j'en ai vu aussi d'autres projets similaires sur l'ensemble du pays. Ces projets-là ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté les bénéficiaires eux-mêmes
au préalable
sur les modes de construction. Parce que cela aussi pose un problème. Lorsque les gens ne sont pas impliqués activement dans l'élaboration de votre projet, ne vous attendez pas à ce que les gens adhèrent à ces projets-là, acceptent cette initiative que vous mettez en place. Je crois que c'est là tous les problèmes. Mais ils ont leur mode de vie que nous respectons légitimement. S'ils acceptent ces différents modes de vie, tant mieux. S'ils ne l'acceptent pas, nous sommes appelés à respecter leur volonté. Pour répondre à notre ami qui est à
docteur Anissé,
qui
a parlé de la compensation.
Qui est à Kikuitu. Oui, effectivement, nous sommes en train d'implémenter un projet sur la foresterie communautaire, spécialement dans les secteurs des Kengé, dans les territoires de Bolungu. Ou si vous vous rendez, nous avons une autre partenaire qui est là sur place. L'ONG s'appelle CRI. Ils ont d'ailleurs leur bureau là-bas avec des très belles initiatives de sécurisation foncière en faveur des communautés. Vous savez, pour ceux qui connaissent bien l'histoire des Kenge, du secteur des Kwenge, si je ne me trompe pas, y avait une des plantations d'huile des palmes à l'époque avec des acquéreurs de la zaïrianisation. Certaines personnalités de la place, reconnues, ont acquis ces espaces-là en leur faveur. Et donc, il s'est posé un problème d'accès à la terre pour les communautés. Et donc, notre projet est en train de faire un travail d'abord de reconnaissance, mais aussi de pouvoir sécuriser ces espaces-là au bénéfice des communautés qui y vivent. Et donc, s'ils passent par ces secteurs-là, spécialement à Kwenge et Nko, vous verrez que nous avons mené des activités qui sécurise au moins plus de 40 000 hectares de forêts au profit de communautés, spécialement des tribus Yansi et Mbala, si je ne me trompe pas. Et donc, nous avons mené ces activités-là. Par rapport à l'aéroport, c'est la RVA de pouvoir faire en sorte de tout manager pour récupérer ses droits. Parce que cet espace-là appartiendrait, si je ne me trompe pas, à la RVA, qui est une entreprise publique de l'État.
Monsieur Alain, Patrick Kikpalou, par rapport à cette question de compensation, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dr. Anissé?
Dr. Anissé, merci beaucoup pour votre question. Je dirais que l'État garde toujours le pouvoir de pouvoir faire passer en premier l'intérêt supérieur de toute la nation. Lorsqu'il y a des projets comme ça d'importance nationale, l'État peut engager des discussions avec les communautés pour trouver des moyens pour la mise en œuvre de ces projets et payer des compensations, par exemple, lorsque les communautés doivent céder une partie de leurs ressources ou bien être déplacées d'un endroit à un autre. L'État connaît très bien toutes ces procédures. Je peux vous donner un exemple. J'étais récemment au Togo. Vous savez, au Togo, ils ont passé une nouvelle loi foncière en 2018, le code foncier et domanial du Togo. À travers ces codes, les communautés togolaises ont récupéré les droits fonciers sur leurs terres traditionnelles qu'elles gardent maintenant. Environ 92% des terres togolaises appartiennent aux communautés togolaises. Et cela n'empêche pas au gouvernement togolais de mettre en œuvre tous les projets de développement d'intérêt national qu'ils ont. Le ministre de l'Agriculture togolais avec qui j'ai parlé m'a partagé leur expérience. Ils sont en train de développer un grand projet au nord du Togo, un projet agricole du genre parc agro-industriel. Et pour ce projet, ils ont besoin de plus de 90 000 hectares de terres pour la mise en œuvre de ces projets. Et ces terres-là appartiennent aux communautés. Donc, le gouvernement s'est engagé dans des discussions avec les communautés du nord du Togo dans cette zone. Et juste en passant pour dire que c'est la région native du président actuel de la République du Togo. Donc, c'est une région, c'est un projet important pour lui. Donc, le gouvernement est en train de parler avec les communautés et mettre en place toutes les procédures et les instruments nécessaires pour la mise en œuvre de ces projets.
Mais ici, on dit souvent que les terres appartiennent, les ayants droit coutumiers. Il y a même quelqu'un qui a Platini qui nous a dit à Ingende, les ayants droit coutumiers, ils font un peu la loi, ils font ce qu'ils veulent.
Exactement. Ça, ce sont des cas qui existent, mais nous savons que dans nos traditions coutumières ici, lorsque le chef des terres gère les terres, elle gère les terres pour les bénéfices de toute la communauté. En République démocratique du Congo, nous avons divers approches de gestion des terres par les communautés. Si tu viens à l'ouest, par exemple, les terres appartiennent à des clans, à des grandes familles et tout ça. Mais si tu vas à l'est de notre pays, les terres appartiennent aux Mwami. Un Mwami, c'est un individu. Mais lorsque les Mwami gèrent toutes ces grandes portions de terres à sous son pouvoir, les Mwami gèrent les terres pour les bénéfices de la communauté. Ils gèrent pas la terre pour lui seul.
Pour lui seul.
Et ça, ce sont des pratiques que nous avons héritées de nos arrière-ancêtres depuis des années et des années. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est des cas de dérapage existent, mais dans la tradition, dans l'architecture des institutions coutumières, il y a des moyens de pouvoir corriger ces.
Monsieur Patrick Kipal, pour terminer, on est arrivé à la fin de cette émission en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment protéger les droits fonciers des peuples autochtones?
Merci beaucoup, Monsieur Jody, de nous avoir sur votre plateau. Nous profitons de cette opportunité pour dire au gouvernement congolais, aux acteurs de la société civile et à la communauté congolaise tout entière qu'il est important de pouvoir reconnaître et sécuriser le droit foncier des communautés dans notre pays, parce que cela contribue à pouvoir renforcer les moyens de subsistance des communautés. Cela contribue à renforcer la gouvernance forestière et foncière, notamment la gouvernance des ressources dans notre pays. Et cela aussi contribue à aider la République démocratique du Congo à répondre à ses engagements internationaux, notamment dans le domaine de changement climatique, de l'amélioration des gestions forestières, et mais aussi à l'amélioration de la gouvernance de la biodiversité. Parce que aujourd'hui, nous avons pris l'engagement au niveau international que d'ici 2030, la RDC va augmenter l'espace sous les aires protégées à 30%. Aujourd'hui, 13,6% du territoire national de la RDC est sous aires protégées. Mmh. Et d'ici 2030, le gouvernement a pris l'engagement d'augmenter ça de 13% à 30%. Nous prions à notre gouvernement de ne pas faire ça comme dans l'ancienne façon, c'est-à-dire chasser les communautés pour ériger des parcs nationaux. Non, nous appelons notre gouvernement à pouvoir revoir notre loi foncière, reconnaître les droits des communautés autochtones et locales sur leurs terres traditionnelles et pouvoir leur donner les moyens pour faire de la conservation communautaire.
Bien, merci beaucoup Monsieur Patrick Ipalo. Je rappelle que vous êtes directeur de programme Afrique au sein de l'ONG Initiative des droits et ressources. Merci également à Monsieur Alain Parfait Ngulungu, qui est le point focal de l'organisation dénommée Tenure Facility, qui est basée à Stockholm, en Suède. Excellente journée. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est nous qui vous remercions, Monsieur Jeudi.